Plus largement, le texte donc de 2 Timothée chapitre 1, les versets 1 à 12. Et dans les Bibles bleues, qui sont, il y en a quelques-unes sur les bancs, si vous voulez suivre dans ces Bibles, c'est à la page 1354. Page 1354 des Bibles bleues, deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 12. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Page 1354. Verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Amen. Chaque mois d'avril a lieu le marathon de Paris, et nul doute que ce dimanche-là, outre les difficultés de circulation pour venir à l'église, vous avez remarqué ces coureurs, hommes et femmes, de tous âges, ou presque, qui déambulent avec leurs brassards. Et à chaque fois que je les vois, je suis rempli d'un mélange d'admiration et d'incompréhension. Admiration, parce qu'il faut beaucoup de courage, d'abnégation, de persévérance pour courir un marathon. Et incompréhension, parce que pour ma part, je pense que même si on me payait, je ne pense pas que je serais prêt à courir pendant 3 ou 4 heures sans m'arrêter. Je suis un peu moins assidu à la salle de sport que notre ami Steven, tout petit peu. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises dans ses lettres, présente la vie chrétienne comme une course. C'est une image qu'il affectionne. Une course longue, magnifique mais souvent fatigante, mais tendue vers un but, tendue vers une délivrance. C'est donc un marathon bien plus qu'un sprint. Et c'est vrai, la vie chrétienne est faite de persévérance, y compris quand c'est dur, surtout quand c'est dur. C'est là que la persévérance prend tout son sens. Et ce thème de la persévérance, eh bien, il revient souvent dans cette seconde lettre de Paul à Timothée. C'est la dernière des 13 lettres de l'apôtre Paul. Et il l'écrit dans des circonstances tout à fait particulières. Il est en prison, et ce n'est pas la détention relativement confortable, une sorte de résidence surveillée, qui avait été la sienne auparavant et dont parle la fin du livre des Actes, et au cours de laquelle donc, il a écrit Colossiens, Philippiens, Éphésiens. Ici, il s'agit d'une détention plus tardive, et plus pénible, dont Paul connaît l'issue, et quand on lit la lettre, on voit que pour lui, il n'y a pas de doute, il sera exécuté par les Romains, donc. Et cette seconde lettre est en quelque sorte un testament laissé à son jeune collaborateur Timothée. Or, plusieurs indices tout au long de cette lettre nous font penser que Timothée lui-même, il passe par une étape assez difficile dans sa foi et dans son ministère. Alors, on peut imaginer que l'arrestation et la perspective de l'exécution de son mentor, l'apôtre Paul, était très difficile à vivre. Verset 4, « Je me rappelle tes larmes », lui dit Paul, et ça fait sans doute référence à cela. Et l'insistance de Paul pour que Timothée reprenne courage, se ressaisisse,
se souvienne de ce qui est essentiel, eh bien ça montre qu'il avait besoin, comme on dirait aujourd'hui, d'être reboosté. Mais même sans être dans la situation de Timothée, on sait que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et je propose donc qu'on médite ce texte en le prenant comme un encouragement pour nous à la persévérance, au courage, là où la lassitude, le découragement, ou peut-être simplement une sorte de train-train quotidien, tendent à nous faire perdre de vue notre foi et notre espérance. Et j'espère que ce texte pourra avoir une résonance aussi pour Stephen, pour l'encourager à tenir la distance et à persévérer tout au long de sa vie avec Dieu. Alors comment tenir la distance justement dans la vie chrétienne? Je vous propose de retenir trois exhortations de Paul à Timothée qui résument, il me semble, son propos dans ce texte. Rappelle-toi d'abord, et puis ensuite n'aie pas peur, et enfin regarde à l'avenir. Premièrement donc, rappelle-toi. C'est, me semble, la première exhortation qui ressort fortement de ce texte, une invitation à se souvenir. Et on le voit, l'apôtre Paul fait référence au souvenir plusieurs fois vers le début du texte. Verset 3, « Je me souviens de toi dans mes prières. » Verset 4, « Je me rappelle tes larmes. » Verset 5, « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Verset 6, « C'est pourquoi je te le rappelle. » Et plus loin dans le texte, comme on le verra, Paul rappelle encore une fois à Timothée quel est le socle de leur foi commune, quel est le socle de leur espérance. On sait combien les souvenirs de moments forts de notre vie comptent pour chacun d'entre nous. Les jalons qui sont posés. Il y a quelques jours, nous étions avec ma famille élargie sur le Champ de Mars en début de soirée et tout d'un coup, la tour Eiffel a commencé à scintiller. Et ma sœur et mon beau-frère, qui étaient occupés avec leurs enfants, se sont alors précipités pour avoir une meilleure vue. Et j'étais surpris par leur empressement, parce qu'ils ont l'un et l'autre grandi en région parisienne et c'est pas comme s'ils voyaient la tour Eiffel pour la première fois. Jusqu'à ce qu'ils me rappellent que c'est au pied de la tour Eiffel que mon beau-frère avait fait sa demande en mariage il y a quelques années, un certain nombre d'années. La tour Eiffel qui scintille, donc, c'était plus qu'une belle image pour eux, c'était un souvenir fort, c'était un souvenir symbolique. Eh bien, l'apôtre Paul veut encourager Timothée à se souvenir des moments forts de sa vie chrétienne et de son ministère aux côtés de l'apôtre Paul. Alors, il rappelle d'abord, dès le verset 2, leur filiation spirituelle, « Mon enfant bien-aimé ». Puis, il rappelle l'arrière-plan personnel de Timothée. Et ça rappelle un peu le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure de Stephen. Son héritage, la foi de sa mère et de sa grand-mère. Et puis, verset 6, il rappelle l'appel, la vocation de Timothée, sa vocation à servir Dieu comme enseignant de la parole, avec, on pourrait dire dans nos termes, enfin c'est déjà des termes bibliques, un ministère à la fois d'évangéliste itinérant et de pasteur, responsable de plusieurs églises en l'occurrence. Paul rappelle que lorsque lui, l'apôtre, a posé les mains symboliquement sur Timothée, c'était le signe d'un appel de Dieu. Mais plus encore qu'un appel, c'était un don de Dieu, c'est le terme que Paul utilise. Dieu s'engage à donner à ceux qui placent leur confiance en lui la foi, la persévérance, le courage. Bref, cette flamme dont parle verset 6. Ce don, comme disait saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. Ce que Dieu nous demande de vivre, il nous donne les ressources pour cela. Et même sans être Timothée, pour retrouver des forces tout au long de notre vie chrétienne, il est bon de nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Les circonstances dans lesquelles Dieu s'est révélé à nous, dans lesquelles sa parole a trouvé racine dans nos cœurs. Ceux qui nous ont parlé du Seigneur, comme Eunice, Loïs et Paul pour Timothée. Les moments clés de notre engagement avec Dieu. Et notamment ce moment où, pour nous qui avons vécu cela, nous l'avons publiquement déclaré par le baptême, comme Stephen tout à l'heure. Donc c'est le premier axe des souvenirs que Paul veut faire renaître chez Timothée pour l'encourager, pour le rebooster. Mais il poursuit en évoquant un souvenir plus important encore, celui de l'œuvre de Jésus en sa faveur, la bonne nouvelle elle-même. Et elle nous est admirablement résumée à partir du verset 9. « Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. » mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Autrement dit, ce n'est pas nous qui avons mérité Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. Et Paul poursuit en rappelant les conséquences de cette œuvre de Christ à la croix. Verset 10, c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc on le voit, Paul rappelle à Timothée ce qui est au cœur de leur foi et de leur espérance commune. La grâce que Dieu a manifestée de façon stupéfiante par la mort sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix. Le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la victoire sur la mort par la résurrection de Jésus, la promesse d'une vie nouvelle, libérée du mal et de la mort. Alors bien évidemment, Timothée, il savait ces choses-là. Lui-même enseignait la Bible, il savait ces choses-là. Mais Paul veut l'encourager en lui rappelant les enjeux, on ne peut plus grand, de son ministère. Cette bonne nouvelle, cette réconciliation avec Dieu, cette vie nouvelle que Dieu invite chacun à saisir. Et soit dit en passant, on a la preuve ici qu'on ne dépasse jamais l'enseignement de la croix. Récemment, on m'a rapporté une critique de notre Église qui m'a encouragé. Ça arrive de temps en temps. Il y en a parfois qui me découragent. Mais celle-là, elle m'a encouragé. Cette critique, c'était la suivante. À la rue de Sèvres, il parle tout le temps de la croix. La croix, la croix, la croix. On aimerait bien parler d'autre chose de temps en temps. Alors, nul doute qu'il y a des critiques légitimes qui pourraient être émises sur notre Église comme sur d'autres. Aucun doute là-dessus. Et y compris sur notre manière parfois de présenter les choses. Et y compris de présenter la croix. Mais malgré tout, cette critique, elle m'a fait plaisir. Parce que oui, nous sommes appelés à revenir sans cesse à la croix et à la résurrection de Jésus. Sans elle, notre foi ne veut strictement rien dire. Si on évacue cela, qu'est-ce qui reste ? Du développement personnel ? Des leçons de morale ? De la religiosité ? Ça aura du mal à tenir au jour de l'épreuve. Par contre, l'assurance de l'amour immérité et illimité de Dieu change notre vie du tout au tout. Et c'est à travers ce prisme-là que nous sommes invités à réfléchir à notre vie entière dans tous ses aspects. Alors dans nos temps de découragement, de fatigue spirituelle, de doute, revenons encore et encore au cœur de notre foi. En prenant la scène par exemple, c'est une manière de le faire, en nous tournant régulièrement vers la parole et la prière. Mais à partir de ce regard sur le passé, l'apôtre Paul va se tourner vers le présent. Et je résumerai ainsi sa deuxième exhortation, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Verset 6, c'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu. Ranime la flamme. Donc ce n'est pas une petite foi privée, doucerette, que Timothée est appelé à saisir, mais bien une foi puissante, transformatrice. Et c'est là que l'apôtre appuie, en quelque sorte, là où ça fait mal, au verset 7, notre devise. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien évidemment, Paul n'improvise pas, sans raison, cette invitation à rejeter la timidité. Nul doute que c'était une difficulté pour Timothée. Alors, est-ce que c'était en raison d'un tempérament naturellement timide ? Peut-être, pas absolument certain. Est-ce que c'était essentiellement en raison des circonstances ? En tout cas, tout porte à croire que face à l'emprisonnement de son mentor, à la responsabilité qui est placée sur ses épaules de prendre le relais, de soutenir et d'enseigner ces petites églises encore naissantes dans le bassin méditerranéen, dans un contexte de persécution, eh bien, Timothée, on le comprend, il prend peur. Il est effrayé et découragé. Et même si nos circonstances sont très différentes, nul doute que certains parmi nous ressentent ou ont ressenti cette crainte et ce découragement, sans doute que tous nous l'avons ressenti à un moment ou à un autre. Face aux difficultés de la vie, face peut-être au coût personnel qui vient de suivre Jésus dans un monde qui globalement rejette son message, on est souvent tenté de se relâcher, de s'éloigner un peu de ce message, et peut-être de partir peu à peu à la dérive. Et plus nous verrons notre engagement chrétien comme une simple foi privée, discrète, timide, renfermée sur elle-même, et je me prêche à moi-même, eh bien plus cette tentation grandira. Nous avons besoin, comme Timothée, d'entendre ce rappel de la puissance de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui bouleverse notre identité, nos priorités, notre espérance. La bonne nouvelle, écrit Paul dans sa lettre aux Romains, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord, puis du grec, ajoute-t-il. Autrement dit, dans son contexte, tous les gens, quel que soit leur arrière-plan. Et c'est pourquoi Paul poursuit en invitant Timothée à sortir de sa crainte et même de sa honte. Verset 8, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Non, il n'y a rien de timide, rien de poussiéreux, rien de caché à l'espérance en Jésus. C'est une espérance vivante, un message, verset 7, de force, la force par laquelle Dieu nous a attirés à lui pour toujours, en brisant tous les liens qui nous tenaient captifs loin de lui. Un message d'amour, parce que l'amour inconditionnel de Dieu doit profondément changer notre regard sur les autres et nous pousser à aimer à notre tour de ce même amour qui voit toujours le meilleur en l'autre, inconditionnel, inlassable. Un amour capable de pardonner, un amour capable de relever. Un message de sagesse, ou autre traduction possible, de maîtrise de soi. La détermination qui nous permet de vivre notre vie dans la confiance en Dieu. Ce message doit nous libérer, nous pousser, pardon, à nous libérer de nos craintes. Et peut-être qu'en 2019, cela pourrait être pour chacun de nous un sujet de réflexion et de prière. De quelle crainte est-ce que Dieu m'appelle à me libérer dans ma relation avec lui? De quelle crainte est-ce que Dieu m'appelle à me libérer? Est-ce la crainte de parler ouvertement de lui? Est-ce la crainte de le suivre dans tel domaine où j'ai peur de ne pas supporter ce que ça va me coûter? Ou la crainte d'ouvrir ma vie et mon cœur à mes frères et sœurs, à mes contemporains plus largement? Si j'ose cette petite illustration, je vais oser. Dans les célèbres histoires de Snoopy, il y a un petit garçon, Linus, qui porte toujours une couverture. Toujours. C'est son doudou, ce qui le rassure et qu'il tient à chaque instant. Dans toute l'œuvre de Charles Schulz, son créateur, Linus ne lâche jamais sa couverture. Jamais. Sauf à un moment, qui a été repéré par quelques observateurs perspicaces. Dans un dessin animé qui parle de Noël, Linus récite l'histoire de Noël, et au moment où il cite l'ange qui dit au berger « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour le peuple », et bien à ce moment-là, Linus lâche sa couverture. Il n'en a plus besoin. N'ayez pas peur. De quelle crainte devons-nous laisser Dieu nous libérer? Laissons-nous interpeller par cette exhortation de Paul, un homme emprisonné qui sait qu'il sera bientôt exécuté et qui peut dire à Timothée « N'aie pas honte, ne sois pas timide, n'aie pas peur. » Et si Paul est convaincu qu'il faut se libérer de la crainte et de la timidité, c'est parce qu'il sait que Dieu et ses projets sont dignes de confiance et changent notre avenir. Notre troisième exhortation, temps de réflexion, regarde à l'avenir. Regarde à l'avenir. Le théologien Henri Blocher écrit quelque part que le terme « espérant » conviendrait un peu mieux aux chrétiens que celui de « croyant ». De toute façon, on dit « croyant », c'est tellement entré dans les usages, mais lui estime que, idéalement, ça serait mieux de dire « les espérants ». L'espérance joue un rôle clé dans cette exhortation de Paul à Timothée. Qu'est-ce qui peut expliquer la joie et la motivation de l'apôtre, malgré des circonstances si difficiles? La réponse est déjà donnée au verset 8 et 9. « Souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. » Il nous a sauvés, peut dire l'homme qui croupit en prison. Et cet acte accompli dans le passé à la croix a des conséquences immenses pour l'avenir. Verset 12. « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » Autrement dit, Paul sait que le Dieu qu'il a envoyé en mission ne perd pas le contrôle des événements et de l'histoire. Il est celui qui aura le dernier mot sur l'histoire avec un grand H et sur son histoire à lui, Paul, et celle de Timothée. Et Paul sait même que la mort qui le guette, elle a été vaincue, elle a été réduite à l'impuissance, verset 10, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas nous séparer de Dieu et de son amour. La mort n'aura pas le dernier mot. Ce qui attend Paul, c'est la vie avec Jésus. Une vie qui vaut toutes les privations et toutes les souffrances s'il le faut. Verset 12, « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. » Alors nous n'avons pas tous la vocation de l'apôtre Paul, évidemment. Personne d'entre nous n'a la vocation exactement de l'apôtre Paul. Mais nous devons être portés par la même espérance. Notre vie chrétienne devrait être tendue vers l'avenir, l'avenir à la grande échelle de Dieu. Un avenir qui, heureusement, ne dépend pas de nous et de nos capacités. Verset 9, « Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » Nous avons confié notre vie à Jésus. Notre avenir n'est plus entre nos mains, mais entre celles de Dieu. L'avenir de Stephen n'est plus entre ses mains, mais entre celles de Dieu. Et cet avenir n'est pas une fuite de la réalité, comme on l'entend souvent. La foi, c'est une fuite du réel. Non, au contraire. Cet avenir qui nous est promis sera une expérience bien plus complète de la réalité que ce que nous vivons actuellement. C'est une nouvelle création que nous attendons. Un nouveau monde que nous promet la Bible, débarrassé du mal et de la mort. Le monde auquel nous aspirons depuis toujours. Il est difficile dans notre société occidentale moderne d'être rempli de cette espérance-là, l'espérance de la vie éternelle. Parce que, entre autres, notre société nous propose d'autres espérances, tellement inférieures, et qui pourtant nous tentent. Moi le premier. Alors, c'est très divers. Ça peut être l'espérance de plus de prospérité à l'avenir, de plus de reconnaissance professionnelle et sociale, d'un avenir familial désiré, etc., etc. Et comme on le rappelle souvent, ce n'est pas que ces choses soient mauvaises en soi, mais elles posent problème quand elles remplacent l'espérance authentique que Dieu nous réserve en Jésus-Christ. Une dernière illustration. Il y a quelques mois, nous avons promis à notre fille aînée une sortie spéciale lorsque ses cousins seraient chez nous à Noël. Et on a commencé à en parler au mois d'août, je pense, et pendant des mois, régulièrement, elle nous a rappelé la perspective de cette activité, de cette sortie, en s'en réjouissant toujours à l'avance. C'était touchant. À chaque fois qu'on évoquait la venue de la famille à Noël, non seulement elle était contente à l'idée de les voir, mais cette fameuse sortie revenait toujours sur le tapis. Livia a vécu plusieurs mois dans l'espérance de cette sortie. Et bien sûr, nous avons tenu parole. Heureusement pour nous. En 2019 et au-delà, que Dieu nous donne d'avoir quelque chose de cet enthousiasme d'enfant. La Bible parle souvent de la foi d'enfant que nous sommes appelés à avoir. Non pas une foi sans intellect, mais une foi qui fait pleinement confiance. C'est ça que ça veut dire. Que Dieu nous donne d'avoir ce même enthousiasme d'enfant pour l'avenir glorieux qu'il tient en réserve pour nous. Que cela revienne régulièrement dans nos pensées et nos paroles. Que nous en parlions ensemble avec joie et enthousiasme. Que Dieu nous donne d'être tellement remplis de l'assurance qui nous vient de l'Évangile que nous avancerons sans crainte dans cette vie. Non pas en faisant comme si les épreuves n'existaient pas, ce serait absurde, mais en y faisant face avec l'assurance qui nous vient de Jésus. Un esprit de force, cette force qui vient d'une profonde confiance en Dieu. Un esprit d'amour, car ceux qui se savent aimer sont poussés à aimer. Un esprit de sagesse, car nous avons trouvé en Jésus-Christ la connaissance qui surpasse toutes les autres, et la seule qui puisse vraiment satisfaire le cœur de l'être humain. Bonne année à chacun. Amen.